When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 18 février à Grenoble, Nordal Lelandais a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir enlevé et tué Maïlys de Harojo, une fillette de 8 ans, au cours d'une fête de mariage en août 2017. Quelques mois avant ce drame, il avait déjà commis un meurtre sur un jeune homme de 23 ans, Arthur Noyer, un crime pour lequel il a déjà été jugé et condamné l'an dernier. Code Source a choisi de prendre le temps de raconter le deuxième procès de Nordal Lelandais en y consacrant deux épisodes. Dernière partie aujourd'hui avec Louise Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien. Louise Colcombet, on reprend le récit de ce procès au septième jour d'audience. Le mardi 8 février, c'est au tour d'Eddy et Anne-Laure, les mariés qui se sont dit oui à Pont-de-Beauvoisin le 26 août 2017, de venir témoigner. Ils racontent comment, peu avant 3h du matin, la soirée bascule.
Oui, ils s'en veulent énormément. Pour eux, c'est une souffrance et une sorte de culpabilité d'avoir invité Nordal Lelandais. D'ailleurs, qui n'était pas invité à l'origine. C'est Eddy, c'est un vieux copain de Pont-de-Beauvoisin. Il ne s'était pas vu depuis 5 ans. Et en fait, Nordal Lelandais, on a su qu'il avait appris 2 semaines avant qu'il y avait la noce. Il était un peu vexé de ne pas être invité. Il a fait en sorte de passer un petit coup de fil. Et puis, Eddy lui a dit, écoute, viens, on va en donneur. Et puis après, il va se réinviter pour cette soirée. Donc, rien à signaler pour eux jusqu'à ce moment. À 2h46-47, en gros, la maman de Maïlys se rend compte que sa fille n'est pas sur la piste de danse. C'est une de ses chansons préférées. C'est pas normal. Donc, on va chercher un petit peu. Et puis, le DJ va faire une annonce pour demander si quelqu'un a vu Maïlys. On continue de la chercher, on va la chercher un peu partout, dans les immeubles alentours, dans le parc, dans les cuisines, y compris jusque dans les poubelles, en se disant qu'elle s'est peut-être cachée dans les voitures, elle s'est peut-être endormie quelque part. Là, carrément, vers 3h, on coupe la musique. Là, ça devient vraiment le cauchemar, c'est-à-dire qu'on a la boule à facettes qui tourne à vide, les gens qui sont en costume d'invité à crier le nom de Maïlys dans le vide. Cette soirée, elle passe du bonheur au cauchemar absolu. Ce moment qui devait sceller leur union, en fait, il est entaché pour toujours par ce crime horrible.
Eddy raconte qu'il a suspecté très vite Nordal Lelandais.
En fait, ils ont un doute parce que Nordal Lelandais, il n'est pas là pendant les recherches. C'est-à-dire qu'on se dit, mais elle est où Maïlys ? Assez vite, sa maman dit, mais moi je l'ai vu parler avec ce qu'elle appelle l'homme au chien, celui donc qui lui avait montré les photos de ses chiens sur son téléphone. Et elle dit, mais lui, il n'est pas là non plus. Eddy se dit, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu non plus. Il réapparaît, il parle à la mère de Maïlys, il lui dit, non, je n'ai pas croisé votre fille. Il va même dire à certains copains, mais je sais pas qui c'est, alors qu'on sait qui lui a parlé. Donc ça éveille des soupçons, il est pas là pendant les recherches, et d'ailleurs au moment où arrivent les gendarmes, il est reparti aussi. Donc ça fait beaucoup d'indices. Et ça, Eddy le remarque tout de suite et il va le dire directement aux enquêteurs, dès les premières minutes.
Comme tous les invités, Nordal Lelandais est auditionné le lendemain de la fête, et il intéresse très tôt les gendarmes.
Oui, d'autant qu'après son audition, il est vu en fait en train de nettoyer sa voiture de fond en comble à une station de lavage qui est en plus à l'opposé de son domicile. Donc ça, c'est un des invités du mariage qui le voit, il le salue d'ailleurs, et qui va aller le rapporter aux gendarmes parce qu'il trouve ça étrange. Et c'est effectivement tellement étrange qu'en fait, quand on va revisionner les images, il y passe pas 20 minutes comme il dit au départ, il va y passer 2 heures en nettoyant au Karcher à l'intérieur de la voiture, en utilisant des produits qui vont tromper l'odorat des chiens. Voilà, il récupère même les lingettes, il les jette pas, il va les garder. Il s'acharne sur le siège passager avant et sur le coffre. Et ça, ça va beaucoup intriguer les enquêteurs.
Nordal Lelandais est placé en garde à vue, puis relâché, faute de preuves. Au 9e jour du procès, un ancien ami de Nordal Lelandais, prénommé Yacine, témoigne à la barre. Il a été le premier à rencontrer l'accusé après cette toute première garde à vue. Il raconte une scène étonnante.
La voiture de Nordal Lelandais, à ce moment-là, elle est saisie, donc il n'a plus d'automobile, et demande à Yacine de venir le chercher, et puis pour lui changer des idées, d'aller voir des amis. Il lui demande de faire un crochet par le lac du Bourget. Et là, il sort un téléphone, il prend une pierre et il s'acharne dessus pour essayer de détruire ce téléphone. Et il lui dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Ah, mais je l'avais volé en soirée, etc. Je veux pas qu'on tombe dessus. J'ai déjà des soucis, on va pas en rajouter. » Et donc, au bout d'un moment, on lui dit « Bah, c'est bon, là, il est cassé. » Il prend le téléphone de lui-même, Yacine, et le jette dans le lac. Ça l'a beaucoup marqué et il s'en est voulu de pas l'avoir dit plus vite. Mais comme tout le monde, il a pensé que Nono, son copain Nono, était évidemment innocent. C'est que bien plus tard, en fait, en reparlant avec Coralie et Fabien, deux autres amis, qui va faire le lien en se disant « Mais et si sur ce téléphone, il y avait quelque chose de compromettant ?»
Nordal Lelandais est ensuite longuement interrogé sur ce fameux portable. Pourquoi est-ce qu'il intéresse autant la cour ?
On se demande si dessus, il ne peut pas y avoir des images pédopornographiques. Est-ce qu'il aurait pu filmer la mort de Maëlys ou d'autres agressions sexuelles, mettons, d'autres petites filles ? On ne sait pas. Ce qui est très étrange, c'est que ce soit la première chose qu'il ait voulu faire en sortant de garde à vue, c'est de détruire un téléphone.
Est-ce que Nordal Lelandais explique à la cour pourquoi il a voulu détruire ce téléphone ?
Il dit juste, je l'avais volé, donc comme j'avais déjà les gendarmes sur le dos, je voulais pas me retrouver en plus avec un vol de portable, j'avais un peu honte. Et la présidente se satisfait évidemment pas de cette réponse, donc elle le relance, elle lui dit, mais enfin, c'est quand même un peu troublant, on vient de vous mettre en garde à vue pour des faits extrêmement graves, et vous, vous dites, ce qui vous importe en gros, c'est un vol de portable. Et lui dit, ah oui, mais non, mais... Et il va rester là-dessus, finalement. Elle va le tenser, elle va le secouer, mais il va rien dire. Hein. Pour lui, c'est un téléphone qui n'était pas en état de marche, mais il avait honte de l'avoir volé, et point barre.
À la fin de la deuxième semaine de procès, la cour se penche sur les conditions dans lesquelles Maëlys a trouvé la mort la nuit du 27 août 2017. Louise Colcombet, à cette occasion, des images de reconstitution sont montrées à l'audience.
Cette reconstitution a été faite pendant l'instruction. Nordal Lelandais a accepté de jouer son propre rôle. Donc on est dans les conditions quasiment les mêmes, c'est-à-dire de nuit, on est dans la voiture, sur la route qu'ils auraient empruntée. Il dit, elle s'est mise à pleurer, et là je lui ai donné 3 à 4 coups très violents. Et donc là, il le fait, c'est filmé, et on voit les images. C'est extrêmement violent, et il fait ça point tendu, on n'a même pas le temps de compter les coups tellement ça va vite. Et c'est tellement violent que la tête du mannequin s'arrache. Et le légiste va bien m'expliquer qu'en fait c'était la deuxième tentative, que la première n'avait pas été filmée et que la première était encore plus violente. Donc c'est dire la violence des coups sur cette petite fille qui faisait 28 kilos quand même.
Que prouve donc cette reconstitution ?
Finalement, ça prouve, au sens pénal du terme, ce qu'on appelle l'intention de tuer. C'est la différence entre coup volontaire, j'ai donné des coups mais je voulais pas la mort, et je voulais tuer. On considère qu'une petite fille qui fait 1m30 et 28 kilos face à un homme baraqué qui a fait de la boxe, il a beau dire « j'ai donné des coups mais je pensais pas faire aussi mal », quand on voit la violence des coups et quand on voit la différence de gabarit, c'est un meurtre.
Les experts racontent aussi dans quel état a été retrouvé le corps de Maëlys.
Ils vont retrouver cette petite fille, en tout cas ce qu'il en reste, malheureusement qu'un squelette, à un endroit qui est très précis et qui semble pas du tout choisi au hasard. Il y a une espèce de grand bloc de pierre, comme un monolithe un peu. Ça fait comme une cavité, il y a des petites pierres. Et le corps, il est retrouvé en position fœtale avec une pierre de 11 kilos qui a été posée dessus, comme pour le cacher en fait.
Deux détails retrouvés sur la dépouille interpellent les experts.
La robe, elle présente une déchirure horizontale entre le haut et le bas, qui interpelle. Et surtout, il y a en bas de la robe des coupures qui ont été réalisées avec un objet tranchant, ciseaux, cutter, couteau, on ne sait pas. Mais volontairement, ça ne peut pas être une dégradation naturelle et ce n'est pas fait par une déchirure d'animaux. Ça a été testé, ce n'est pas possible. Et enfin, encore plus troublant, les cheveux de Maëlys qui étaient tressés ce jour-là, dans la tresse, on a des cheveux qui sont coupés à plusieurs endroits. Comme si on avait voulu garder un morceau, peut-être un trophée de ses cheveux. C'est très étrange.
Nordal Lelandais est interrogé au procès sur ces détails troublants. Est-ce qu'il s'explique ?
Il s'explique pas du tout, non, il dit « je ne me l'explique pas », mais là, d'un ton très détaché encore, comme si on parlait de quelque chose qui ne concerne pas vraiment, et il dit « bah non, je ne sais pas, c'est pas moi, non, j'avais pas d'objet coupant tranchant, bon, de toute façon, il a nettoyé sa voiture, donc on saura jamais s'il avait quelque chose avec lui ». Et voilà, non, il s'explique pas, il sait pas.
Il y a en plus une question que les experts continuent de se poser, c'est de savoir si Maëlys a subi des violences sexuelles.
Bah, cette question, tout le monde se la pose, mais les experts, eux, ils peuvent pas y répondre tout simplement parce que le corps de Maëlys, il était dans un état de squelette et on n'a que des os. Toutes les autres parties qui pourraient montrer une agression, un viol éventuel n'existent plus. Donc on peut rien faire dire à ce squelette à ce niveau-là, en tout cas.
Le vendredi 11 février, Nordal Le Landais est donc longuement interrogé par la cour qui veut connaître sa version des faits cette nuit-là.
Oui, alors lui, il maintient ce qu'il a toujours dit pendant l'instruction, c'est-à-dire qu'il n'a eu que 3 interactions avec Maëlys, il lui a parlé 3 fois. C'est elle qui a absolument voulu venir, elle voulait absolument voir ses chiens, donc elle serait montée d'elle-même, alors que c'est une petite fille un peu craintive, hein, ça a été dit plusieurs fois, elle serait montée d'elle-même dans la voiture en lui disant « Ah, mais est-ce que tu pars voir tes chiens? Je veux venir ». Elle monte dans la voiture, ils partent, il explique qu'il se met en mode avion, non pas parce qu'il a des mauvaises intentions, mais parce qu'en fait, comme il part rechercher de la cocaïne chez lui, il se dit « ça fait mauvais genre d'avoir une petite fille en même temps ». Bon, et qu'ensuite, il va la frapper parce qu'elle se met à pleurer, et qu'au lieu de la ramener, bah, il a peur, il va parler d'une image qui lui revient, du meurtre d'Arthur Noyer, etc. Bon, c'est pas très clair, il dit qu'il la tue. Il dit qu'il dépose son corps temporairement le long d'une voie de chemin de fer, qu'il retourne au mariage pour se construire un alibi. Donc il fait cet aller-retour assez fugace, hein. Il repart avant l'arrivée des gendarmes. Et ensuite, il vient récupérer le corps et il va l'amener dans la montagne. Et il en reste là à dire bah, c'est un enlèvement, mais pas vraiment, parce qu'en fait, elle m'a dit qu'elle avait l'autorisation de ses parents. Je l'ai tuée, mais pas vraiment parce que je voulais pas la tuer. Et on en est là au bout de 5 heures d'interrogatoire par tous les avocats.
Après ce très long interrogatoire, à 20h15, il fait quelques aveux.
Oui, alors ça, c'est très surprenant parce que ça fait quand même 5 heures qu'on y est, qu'il ne se démonte pas, rien, jamais. On lui parle sur tous les tons, on l'agresse, on lui parle doucement, etc. Rien n'y fait. Il est tellement tard que le public en partie est parti, certains journalistes ne sont plus là. Et son avocat, maître Alain Jakubowicz, se lève et il lui dit bah alors, est-ce que tu reconnais que c'est un enlèvement? Et là, il dit oui. 5 minutes plus tôt, il nous dit que non, pas du tout. Hein. Est-ce que tu reconnais que tu as donné la mort à Arthur Noyer volontairement? Il dit oui. Il a passé un procès à dire l'inverse. Là, oui. Est-ce que tu reconnais que tu as tué Maëlys volontairement? Oui. Donc là, on se regarde tous un petit peu stupéfaits parce qu'on ne comprend pas bien ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il est en train d'avouer des faits? Est-ce qu'il va aller plus loin? Mais maître Alain Jakubowicz, il ne pose pas d'autres questions. Et il ne pose surtout pas la question qui pourrait intéresser tout le monde, qui est au cœur du dossier, c'est est-ce qu'il avait l'intention ou a-t-il violé Maëlys? Et l'avocat, il se rassoit, et la séance, elle est levée le vendredi sur cette espèce de vrai-faux coup de théâtre, quoi.
C'est donc ce soir-là la première fois qu'il reconnaît avoir donné volontairement la mort à Maëlys?
Oui, c'est la toute première fois qu'il le dit. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que en plus des 5 heures où il a dit l'inverse pendant tout l'après-midi, le matin même, il avait réussi à dire à sa petite amie du moment des faits quasiment que c'était de sa faute, parce qu'en fait, dans la nuit, 1 heure et quelques avant qu'il enlève Maëlys, il lui envoie un SMS en lui demandant si elle dort. Sous-entendu, je vais peut-être passer te voir, etc. Sauf qu'elle n'a pas répondu, elle ne l'a pas eu ce jour-là. Et à la barre, on va lui demander, alors ça aurait changé quoi? Sous-entendu, est-ce que si vous aviez eu une relation sexuelle, vous n'auriez pas eu cette pulsion, etc. Il dit, finalement, je serais parti, du coup, j'aurais pas tué Maëlys, en gros. Mais du coup, il a une propension à rejeter la faute sur l'autre, qui tranche quand enfin, à la fin de cette journée-là, il dit « oui, ok, c'est moi et j'ai voulu la mort ». Voilà, c'est cette différence qui est assez forte à ce moment-là.
Après le week-end, la 3e semaine du procès s'ouvre et la présidente réinterroge Nordal Le Landais au sujet de ses aveux.
Oui, elle veut voir s'il peut les réitérer. Et là, il rétropédale en disant « oui, alors c'est un enlèvement, mais c'est un enlèvement involontaire ». Et les coups, j'ai volontairement donné les coups. Donc là, finalement, Valérie Blin commence un peu à s'agacer. Elle lui dit non, mais les coups, vous les avez reconnus depuis des mois. Donc là, maintenant, c'est l'intention de tuer. Et elle le force, elle le pousse, et il finit par redire ok, j'avais l'intention de tuer. Mais c'est vraiment, on a l'impression que c'est l'accouchement dans la douleur. Et par contre, sur tout le reste, à nouveau, j'ai pas de mauvaises intentions, j'ai pas violé, j'ai pas. Voilà. Donc il reste bloqué, en fait. On a l'impression que c'est le maximum, il peut pas aller plus loin, en fait.
Plusieurs experts et psychologues se succèdent à la barre. Ils sont 10 à s'être penchés sur la personnalité de l'accusé. Parmi eux, Raphaël Loiselot. Que dit-il?
Lui, il est psychologue et il a eu cette formule frappante. Il a dit « Moi, j'ai cette combinaison de 3 choses. C'est une personnalité qui est à la fois psychopathique, psychotique et pervers narcissique. Et il dit qu'un cas comme ça, comme Nordal Lelandais, il en a vu que deux fois dans sa vie. Et ils sont tous, psychologues et psychiatres, tous assez d'accord sur le fait que c'est quelqu'un qui est très dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il a une personnalité qui est très particulière, ce qu'ils appellent le clivage. C'est un fonctionnement qui permet de cloisonner la partie normale et la partie avec les démons, on va dire, la partie sombre, comme si il avait une conscience à double fond. Toute la partie sombre avec ses crimes, ses pulsions, notamment pédophiles, tout ça est bien enfoui. Et il veut jamais l'aborder. Donc c'est pour ça qu'il parle pas, en fait.
Et donc cette double personnalité, comment elle se traduit dans son comportement ?
En fait, il souffre d'un manque d'empathie tel et d'un mensonge qui est chez lui pathologique qu'on ne voit pas bien comment il pourrait changer. En gros, il passe son temps à mentir et à manipuler sans avoir aucune notion de la souffrance de l'autre. Et ça, c'est très grave.
Quelles sont les hypothèses émises par ces experts pour expliquer justement ce clivage ?
Ils disent tous que c'est quasiment impossible que Nordal Lelandais soit comme il est s'il n'a pas subi des traumas. Soit un gros trauma, par exemple des agressions sexuelles, soit plusieurs petits événements, soit même qu'il ait pu hériter de traumatismes. Et c'est vrai que Raphaël Loiselot, lui, il a refait tout l'arbre généalogique de Nordal Lelandais chez sa mère, chez son père. Et c'est hallucinant de voir à quel point c'est parsemé de traumatismes. Sa mère, elle a quand même... ils sont 13 enfants, il y a des suicides par pendaison chez ses frères, des morts violentes, un frère qui a mystérieusement disparu, un autre qui a violé sa fille. Du côté du père, le père, il était rejeté, Nordal lui-même était rejeté, le père, on a un doute sur sa filiation, son propre frère a connu des morts aussi. Enfin, c'est partout, il y a la mort, du traumatisme. Et lui-même, Nordal Lelandais, il n'a pas l'air d'en faire grand cas, sa famille non plus. Enfin, on finit par se demander si tout ça n'est pas considéré comme normal, en fait.
Au cours de l'instruction, Nordal Lelandais avait déclaré qu'un monstre s'était emparé de lui lorsqu'il s'était retrouvé dans cette voiture avec Maïlys, qu'il avait des hallucinations. Et pendant l'audience, il a dit qu'il a vu Arthur Noyer dans les yeux de la fillette. Que disent les experts là-dessus ?
Ils répondent que c'est faux. Que l'hypothèse d'une dissociation à ce moment-là, elle n'est pas possible parce que dans ce cas-là, quand on est dissocié, ben on l'est vraiment. Lui, il est dissocié 30 secondes au moment de tuer Maïlys, mais ensuite, il est extrêmement organisé puisqu'il revient en mariage, il se fabrique l'alibi, il va ensuite mettre tout en place et effacer toutes les images sur son téléphone, sur son ordinateur, résilier sa ligne de téléphone, etc. Donc pour quelqu'un qui est dissocié, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'organisation. Donc là, ils vont dire qu'en fait, ça, c'est un mensonge, qu'il a tenté un coup de bluff. Il n'y a pas de maladie mentale. En revanche, sa structure de personnalité, avec une part sombre qui refuse de révéler, avec mensonge, manipulation, et un tel manque d'empathie qu'en fait, il lâche même pas de choses sur lui, la personne hermétique au plus haut point. Ils disent que ça, c'est ce qui se rapproche le plus de la maladie mentale. Et finalement, c'est quelqu'un qui est psychopathe et qu'on peut difficilement récupérer. Donc les perspectives d'évolution sont extrêmement minces.
Louise Colcombet, on en vient aux plaidoiries qui commencent le mercredi 16 février avec les avocats des parties civiles.
Oui, alors on a notamment la plaidoirie de l'avocate des petites cousines, Caroline Raymond, qui va expliquer quand même le traumatisme que ça a provoqué. C'est-à-dire que bon, non seulement c'est leur cousin qui est poursuivi, c'est pas un inconnu, et puis ces petites filles, quand bien même elles étaient endormies, en fait on ne sait pas si elles n'ont pas été conscientes à un moment, et si ce sont pas ce qu'on appelle des bombes à retardement, qui pourront avoir des dégâts psychiques énormes chez elles, peut-être dans 10, 15, 20 ans, ou quand elles deviendront mères à leur tour. Donc ça, c'est une énorme inconnue. Il y a ses petites cousines, et puis il y a évidemment les parents de Maïlys. Les avocats ont rappelé à quel point ils ont été détruits. Ils sont dignes, ils sont forts, mais enfin, c'est des gens qui ont tout perdu, en fait. Leur vie, elle n'a plus de sens, si ce n'est se battre pour la mémoire de Maïlys et pour Colline, leur autre fille. Mais voilà, leur couple, il a volé en éclats. Enfin voilà, c'est la douleur permanente. Elle va durer bien au-delà du procès. Enfin, c'est pour toujours.
Le lendemain, c'est au tour de l'avocat général, Jacques Dallest, de prendre la parole pour ses réquisitions.
Oui, alors lui fait un portrait assez dur de l'accusé, qui va le traiter de raté de la vie. Et puis surtout, il va reprendre ce que disent les experts, puisque l'avocat général, lui, représente les intérêts de la société. Les experts ont parlé d'une dangerosité extrême. L'avocat général, lui, dit que c'est un danger social absolu. Donc c'est quelqu'un qu'il faut mettre à l'ombre et pour longtemps. Donc il va assez logiquement requérir la peine maximale encourue, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.
Après ces réquisitions, c'est au tour de l'avocat de Nordal Lelandais, maître Jakubowicz, de plaider.
Oui, alors sa plaidoirie, elle est très attendue parce que Maître Jakubowicz, d'abord, c'est l'avocat de Nordal Hollandais depuis le début. Il avait eu des anicroches parce qu'à un moment, quand Nordal Hollandais niait les faits, il est allé sur les plateaux de télé défendre ses positions. On l'avait beaucoup critiqué pour ça, etc. Donc là, il va expliquer pourquoi il défend Nordal Hollandais, notamment. Il va dire quand on porte la robe d'avocat, peu importe que ce soit en partie civile ou pour défendre un criminel, tout le monde a droit à une défense. Lui, il veut absolument pas dire que c'est quelqu'un qui a pu souffrir et qui, du coup, était quelque part condamné à reproduire la violence, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'est pas très récupérable. Donc, il va gommer tout ce que les experts ont dit. Il va dire que c'est quelqu'un finalement d'assez banal qui aurait été pris un peu dans une dérive passagère. Alors, il explique que finalement, c'est la mort d'Arthur Noyer qui a complètement bouleversé intérieurement son client. Il se dit, après tout, est-ce qu'il a pas paniqué quand il a cette petite fille dans la voiture? Il a de la cocaïne, il en a pris. Il a pris de l'alcool, il sait qu'il est accro à la pornographie, qu'on va peut-être en retrouver sur ses téléphones. Il sait que sa voiture, c'est là-dedans qu'il a aussi transporté le corps d'Arthur Noyer. Donc, est-ce qu'il a pas peur de se faire prendre? Il imagine qu'il panique, en fait, à ce moment-là et qu'il passe à l'action sur cette petite fille avec ses coups très violents pour ça. Et voilà, enfin, il essaye de dire que finalement, face à la perpétuité, il faut aussi se dire que c'est quelqu'un qui peut évoluer, qu'il a reconnu quand même sa participation, il a reconnu le meurtre difficilement, il a reconnu l'enlèvement. Et donc, il essaye de dire au juré, oui, il y a un espoir de rédemption, donc ne lui donnez pas la peine maximum, donnez-lui 30 ans.
Louise Colcombet, on en vient au dernier jour de ce procès, le vendredi 18 février. À la reprise de l'audience, le matin, la présidente de la Cour, Valérie Blin, donne la parole à Nordal Lelandais une dernière fois.
Nordal Lelandais, il prend la parole, donc avec ce ton assez mécanique, monocorde qu'on a vu et sans émotion. Il va dire d'abord qu'il reconnaît les faits à nouveau. Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés. Deuxièmement, il dit oui, je vais me soigner, engager un vrai travail thérapeutique. Mais il ne rentre pas dans le détail de savoir s'il va parler de pédophilie. Et troisième chose, il va demander pardon. Il va dire « Je sais que mes excuses ne seront pas acceptées, mais je me dois de les présenter sincèrement. » Il se tourne vers les parties civiles et il s'excuse.
La cour se retire pour délibérer. 7h30 plus tard, l'audience reprend.
L'audience reprend dans une ambiance un peu particulière. Il y a une tension, toujours, avant un verdict. Même s'il y a peu de suspense hein, sur la peine, mais il y a toujours ce risque de débordement. Il y a du public, il y a beaucoup de proches des parents de Maëlys qui sont venus. Et donc, il y a des gendarmes qui se sont déployés devant le box et entre les deux rangées de public, parce qu'il y a de l'autre côté aussi la maman de Nordal Hollandais, pour qu'il n'y ait vraiment pas de manifestation. Et d'ailleurs, en fait, le verdict est rendu dans une parfaite solennité, finalement. Aucune effusion, rien, juste un murmure au moment où va être prononcé le verdict, qui est la réclusion criminelle à perpétuité avec le maximum, la peine de sûreté de 22 ans. 22 ans de sûreté, ça veut dire qu'il ne pourra pas formuler de demande de libération avant 22 ans. Mais c'est pas parce qu'il en formule une qu'elle sera acceptée. C'est d'ailleurs souvent pas le cas. Donc en réalité, sa peine va courir entre 22 ans et la fin de sa vie.
Comment réagissent les parties civiles et en particulier la famille de Maëlys?
Comme toute l'audience, ils vont être très dignes parce que faut comprendre que pendant l'audience, Nordal Hollandais, il a osé des choses, il a dit des choses qui pouvaient provoquer des réactions. Ils ont toujours été super calmes. Et là, c'est pareil, c'est vraiment un moment de recueillement. Ils s'enlacent, en fait, doucement entre Colline, le papa et la maman de Maëlys. Ils se prennent dans les bras, ils se tiennent les bras, ils pleurent. Et à la sortie de l'audience, c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils vont dire tous les deux que finalement, ils sont très fiers de leur fille parce que malgré tout, elle a réussi à mettre un grand criminel derrière les barreaux qui fera plus de mal à personne.
On a été digne et fort pour elle, elle nous a donné sa force.
Et Colline, elle a redit à quel point elle était aussi fière de sa sœur. Donc beaucoup de dignité, oui, à nouveau.
Merci beaucoup. J'espère que Maëlys sera là dans les esprits de tous les Français. Merci.
Louise Colcombet, après le premier procès de Nordal Lelandais, vous aviez publié un papier avec votre consoeur Pascal Aigret intitulé « L'énigme Lelandais ». Est-ce qu'après ce nouveau procès, Nordal Lelandais reste une énigme ?
En grande partie, oui. On a appris beaucoup, beaucoup plus de choses à ce procès qu'au premier, parce qu'on a déplié beaucoup plus de choses de sa vie, de ses éventuels traumas, de ses turpitudes. Il a reconnu à demi-mot la pédophilie. Mais le problème, c'est que quand on étudie un crime, il faut forcément se pencher sur la personnalité de l'auteur pour le comprendre. Parce que dans ses motivations, il y a forcément quelque chose de très personnel. On est obligé d'aller fouiller son âme. Et quelque part, tant que l'accusé lui-même refuse de dire qui il est et qu'est-ce qu'il y a au fond de lui, on ne saura jamais tout de ce crime. C'est lui qui détient la clé. Et là, il est parti avec.
Merci Louise Colcombet. Je rappelle que nous avions déjà consacré plusieurs épisodes diffusés en mai 2021 sur les affaires qui entourent Nordal Lelandais. Un premier épisode qui revient sur son parcours criminel avec le journaliste Serge Pueyo. Et aussi deux épisodes qui racontent en détail son procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. Vous pouvez les retrouver facilement sur leparisien.fr, rubrique podcast, ou sur votre application audio en tapant par exemple dans le moteur de recherche des mots-clés comme Lelandais et Code Source. Cet épisode a été conçu et préparé par Raphaël Pueyo, production Marion Botorel, Ambre Rosala et Sarah Amni, réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis, si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr.